France Musique. Les grands entretiens, Rodolphe Bruno Boulmier. France Musique.
Je m'appelle Claude Delangle, saxophoniste. Je suis né le 4 juin 1957 à Lyon.
Claude Delangle, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sort du conservatoire, qu'il n'y a pas vraiment de place dans les orchestres, puisque le saxophone n'est pas un instrument d'orchestre, que la carrière de saxophoniste n'existe pas véritablement encore, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est soit l'enseignement, soit on fonde un quatuor de saxophone, qu'est-ce que vous avez fait?
Ou on rentre dans un orchestre militaire, parce que quand même il y a un certain nombre d'orchestres militaires qui offrent cinq ou six postes de saxophoniste. Et moi, grosse crise en fait existentielle, pas très heureux en sortant du conservatoire, la conscience au fond de ne pas savoir grand-chose, d'avoir tout à apprendre, comment. Je ne savais pas, mais par le biais de l'improvisation, j'ai eu la chance de participer à des installations ou avec des compositeurs qui me demandaient d'improviser sur des séquences. Je trouvais que c'était tout un monde dont je n'avais pas idée. Et en même temps, j'ai senti assez vite que je voulais connecter une certaine tradition française, pour ne pas la nommer, de l'instrument avant, de nos instruments avant, pas seulement le saxophone, c'est qu'il y a une vraie école d'instruments avant en France, comme on le sait, et en même temps, renouveler totalement, enfin, l'image qu'on avait d'un saxophone classique vieillissant, pas très intéressant quand même.
Donc en 1977, vous avez votre premier prix au conservatoire. Est-ce que rapidement, vous allez devenir professeur au conservatoire, vous allez rentrer à l'ensemble intercontemporain, vous allez fonder un quatuor de saxophone ou vous allez faire de la création? Comment les choses se sont articulées? Dans quel ordre?
L'ordre, je dirais que c'est un ordre non institutionnel, non professionnel. C'est que je rencontre une personne qui allait devenir ma femme et qui est pianiste, qui est une très très bonne pianiste. Et grâce à elle, je prends des cours de musique de chambre avec son professeur d'abord, mais aussi avec Jean Körner. Son professeur, c'est Germaine Mounier. Des musiciens avec lesquels je travaille, du répertoire contemporain ou du répertoire classique. Je me souviens avoir travaillé avec son professeur la sonate de Hindemith, Paul Hindemith. Et là, je découvre une autre manière de voir la musique par le biais de personnes qui ne connaissaient rien à mon instrument. Oui, j'étais émerveillé de découvrir que la gogique d'une œuvre, les points forts, les grandes structures... Je découvrais la musique. Et par ailleurs, c'est encore non institutionnel, c'est comme je le disais, ces amis compositeurs dont je jouais la musique, en particulier des Japonais, et notamment Ichiro Nodaira, qui avait écrit pour un de mes amis japonais, qui avait écrit Arabesque 3. Je me suis pris à jouer cette musique-là, travailler avec lui, excellent pianiste. Et là, je commence à, pendant un an ou deux, je rentre dans un orchestre militaire, d'ailleurs j'allais l'oublier, je rentre comme deuxième saxophone baryton à l'orchestre de la police nationale, tenez-vous bien. Et j'étais très content parce que j'avais comme ça un poste et j'ai gagné ma vie très jeune, à 21 ans. Bon, pas très très bien, mais quand même, c'était pas mal. Et puis, je travaillais pas trop, donc j'ai plein de temps pour travailler pour moi, c'était très bien. Et puis, je passe le CA, le certificat d'aptitude pédagogique, et je l'ai la première fois, n'ayant aucune compétence pédagogique, et étant formé par 2-3 stages par-ci, par-là. J'ai eu mon CA en poche, et très vite employé au conservatoire d'Angoulême, où l'équipe... toute neuve, sous la houlette de Jacques Pézy, qui était un chef très ouvert, un directeur de conservatoire très, très ouvert, et chef d'orchestre, très bon chef d'orchestre. bons musiciens, avec Anna-Charlotte Raymond, comme professeur de piano, par exemple, ça, ce nom-là va vous dire quelque chose, ou d'autres. Et là, toute cette petite équipe qui venait le lundi, qui descendait de Paris à Angoulême le lundi matin et remontait le mercredi soir ou le jeudi, on s'est, comme ça, je dirais, formés les uns les autres. On parlait musique, on parlait interprétation, et voilà, c'était un poste important pour moi. J'y suis resté seulement 4 années. Mais Angoulême, c'était agréable. C'était un peu on allait en vacances à Angoulême. On allait enseigner et prendre des vacances pendant 3 ou 4 jours par semaine.
Après, ça va être le Conservatoire de Paris. Daniel Defayet va partir à la retraite,
pas non, tout de suite, non, pas tout de suite. Je suis le poste de Boulogne-Billancourt s'ouvre. C'était un poste qui n'était pas à temps complet. C'était un musicien, je crois, qui était à la garde républicaine en même temps, qui enseignait là pour quelques heures par semaine. Et Alain Louvier, directeur du Conservatoire de Boulogne-Billancourt, auditionne des jeunes professeurs. Et je me souviens, la première question qu'il me pose, est-ce que vous demandez à vos élèves de jouer avec vibrato ou d'abord vous installez un son droit avant de commencer à étudier le vibrato ? Alors bon, voilà, la réponse était assez facilement trouvée. Donc j'ai enseigné pendant 6 ans d'abord au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, où là, je dois dire que j'étais vraiment très très heureux parce que j'ai, évidemment, comme je le disais, rencontré des personnes comme Marie-Yvonne Le Dizès ou d'autres musiciens de l'ensemble intercontemporain. Et c'est Marie-Yvonne qui m'a dit, mais écoute, comme tu joues du saxophone, ça, il faut que tu viennes auditionner pour Pierre parce que il est pas trop content, ça se passe pas très bien. On a souvent besoin d'un saxophoniste. Et voilà. Et bon, alors j'y suis allé à reculons hein, parce que bon, quand on a 25 ans et que pour des instrumentistes comme les guitaristes, les accordéonistes aujourd'hui, les instruments qui ne sont pas dans l'orchestre de manière régulière, on met un certain temps à comprendre comment ça fonctionne, à se former aussi, tout simplement, se former au plan de la musique de chambre, au plan des esthétiques musicales, de comprendre comment le monde musical fonctionne.
De langue, vous nous avez raconté votre jeunesse à Lyon, le Conservatoire de Paris, jusqu'à ce moment où on vous dit venez rencontrer Pierre, venez donc Pierre Boulez et venez à l'ensemble intercontemporain. Vous nous dites que vous y allez à reculons. Comment ça s'est passé, la première rencontre?
D'abord, grâce à Marie-Yvonne Le Dizès, je me prépare et je me prépare longtemps, ça, c'est peut-être une année, je ne sais plus, mais en 86. Janvier 86, je vais auditionner, donc entre deux répétitions, sans piano, avec un répertoire choisi. Je me souviens que je joue épisode 4e de Betty Jolas, je joue un extrait de la sonate d'Adenisov, je joue quelques traits d'orchestre dans la pièce pour le concerto pour clarinette de Boulez. Et moi, un peu fragile, un peu... Je tente ma chance, disons. Et Boulez me dit tout de suite, mais est-ce que vous avez une liste de concertos? Ah, je lui dis, moi, je ne suis pas venu pour faire des concertos avec l'ensemble intercontemporain, je suis venu pour voir si vous aviez envie d'entendre ce type de son et d'expression et d'attaque dans l'ensemble, parce que j'ai plutôt besoin d'être formé de cette manière-là. Et il me dit non, on va jouer des concertos, et puis on a besoin de vous, donnez votre numéro de téléphone, voilà. On va... Tout s'est un peu enchaîné à partir de ce moment-là. Non pas que j'étais, comme vous l'avez dit, je n'ai pas été membre de l'orchestre, puisqu'il n'y a pas de... Tous les instruments ne sont pas représentés à l'Ensemble d'art contemporain, mais c'est vrai que j'y allais assez régulièrement pour jouer les Berrios, dans lesquels il y a beaucoup de saxophones, pour jouer, mais aussi la musique de Philippe Hurel, pour jouer Griset, pour jouer les spectros que Boulez jouait quand même. Mmh. Pour moi, ça a été une merveilleuse école, parce que je pense que la perception à l'extérieur, dans le milieu musical de Boulez, bon, il est probablement un peu erronée. Elle a été rectifiée depuis longtemps maintenant, mais c'est un homme extrêmement généreux, avec les jeunes musiciens en tout cas, faisant confiance aux jeunes musiciens, laissant beaucoup de responsabilités aux musiciens lui-même, le laissant jouer, l'aidant, et étant extrêmement pragmatique. C'est moi ce que j'ai retenu, c'est cette espèce d'exigence, cette oreille de compositeur, cette oreille. Pour moi, ça a été une école de la... Je ne veux pas dire de la rigueur, en fait, parce que je pense que, peut-être prétentieux de le dire, mais je l'avais, cette rigueur-là. Mmh. Mais en tout cas, du lien entre rigueur et forme de la musique, et agogique, et possibilité instrumentale, et acoustique, je dirais. C'est pas pour rien qu'il a créé cet IRCAM, parce qu'en fait, le lien entre l'acoustique des instruments, ce lien entre acoustique, composition... analyse que permettent tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Voilà, moi je l'ai compris et c'était merveilleux en fait de travailler une dizaine d'années avec lui et aussi à Berlin parce que j'ai enregistré le Boléro en fait sous sa direction également. Donc je vais un peu le tenant et l'aboutissant de son métier.
France Musique, les grands entretiens de Claude Delangle.
Boulez, enfin, moi, lorsque j'écoute le compositeur, je vois son rapport au clavier, la harpe, un instrument qu'il aime beaucoup, la clarinette, dialogue de l'ombre double. Le saxophone, je vois moins le lien qu'il pouvait avoir avec cet instrument. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce qu'il aimait cet instrument? Est-ce que vous...
Pour lui, le saxophone était une clarinette avec d'autres possibilités plus vocales, des possibilités plus avec une chaleur de son, avec un son plus large, mais qui devait d'abord être au moins maîtrisé d'abord comme une clarinette. Et je me souviens, j'ai une anecdote absolument extraordinaire, lorsqu'Alain Damien a créé le Dialogue de l'ombre double justement au Barbican Center à Londres, et l'ensemble jouait d'autres œuvres dans lesquelles je participais, et j'ai écouté la générale en cabine derrière Boulez et l'équipe technique qui était là, et immédiatement après la fin de l'exécution d'Alain Damien, il se retourne vers moi, il me dit « Vous aimeriez bien la jouer cette pièce-là, n'est-ce pas ?» Je trouve ça extraordinaire parce que bon, il me connaissait un peu et il savait mon appétit pour le faire feu de tout bois. Et il m'a dit « Mais ça sonnerait très très bien au saxophone, vous savez. Je vais vous faire envoyer une partition. » Et en fait, c'était une sollicitation.
Parlez-nous de Berrios, parce que ça a été, je crois, une rencontre importante. Comment vous vous êtes rencontrés et quelle a été la collaboration avec Luciano Berio?
La collaboration avec Luciano Berio, c'est pas seulement importante, elle est fondatrice pour moi. C'est probablement l'une des premières musiques contemporaine de mon époque, enfin on va dire des années 80, des années 70 même. J'étais fasciné par cette musique, je sentais vraiment que j'avais ma place dans cette musique-là. Et il se produit un concert à Paris, je joue avec l'ensemble intercontemporain au Châtelet, concert au Châtelet 1989-90, j'étais déjà professeur au conservatoire de Paris, donc on avance un tout petit peu, mais à la générale, je réalise qu'à ce concert-là, était en présence, Boulez dirigeait, Berio était présent, Ligeti était là, et Griset écoutait la générale avec ses élèves. Donc oui, c'est un bon petit cocktail dans la salle. Et j'entends, parce que l'ensemble joue à ce jour-là, joue le Chemin 4 pour hautbois et orchestre avec Laszlo Haddadi qui joue ça absolument merveilleusement. J'écoute cette œuvre, je dis ça c'est pour moi, ça c'est trop beau, je peux pas ne pas jouer cette œuvre-là. Et je vais voir Berio et je dis, moi maestro, je veux jouer cette œuvre-là, que ça vous plaise ou non. Et il me dit, pourquoi pas, mais il me dit, il faut pas commencer par ça, il faut d'abord jouer la séquenza 4 pour au bois, et puis on en reparlera, jouer, et puis venez me voir. Et me voilà parti avec ma séquenza pour au bois. J'essaye, je passe du temps, je passe un mois, je passe deux mois, je passe un certain temps.
Donc, il fallait la transcrire au saxophone soprano.
Je la joue au saxophone soprano. Et au bout de quelques mois, je dois dire, je me décourage. Je dis non, franchement, c'est vraiment trop difficile. Je laisse tomber, vraiment. Quelques temps après, je rencontre donc le directeur artistique de BIS qui me propose de faire un disque solo. Et faire un disque solo qui deviendra Solidari Saxophone. Et je me dis, j'enregistre cette séquenza. Mais alors avant d'enregistrer, évidemment, il faut aller voir le... On peut pas faire ça comme ça. Donc je prends mon billet de train pour Florence. Et après, rendez-vous est pris et je lui joue la séquenza. Et je prends mon saxophone alto quand même. Et la séquenza 9. Et il me dit, mais ça c'est formidable, on te passe un après-midi à choisir des doigtés, à changer quelques éléments, à adapter quelques... Et il me dit, vous savez, ça marche, c'est formidable, il faut absolument qu'on édite cette version-là pour saxophone soprano. Et ça, pour couper court, est-ce qu'on entend parfois dire que ça s'est fait sans l'avis de Berio? Pas du tout, bon, il était assez plutôt content. Et on avait du temps, mon train était... Je reprenais un train de nuit le soir, donc je lui dis, écoutez, on a un petit moment, si vous avez deux minutes, je peux vous jouer l'autre séquenza. Et là, je déplie ma partition sur quelque chose qui n'était pas du tout un pupitre. Et il se met à côté de moi, il suit pas à pas comme ça, il lit la partition avec moi et je joue ma séquenza. Et évidemment, quand on joue, on a quand même des antennes. Et je veux pas dire je le voyais, mais je le sentais fermer, plisser les paupières et pincer les lèvres quand je jouais les fortissimo maximum à l'aigu. Je me dis, zut, j'ai raté mon coup. Et là, bon, un peu penaud, je finis ma séquenza et il me dit, vous savez, j'y pensais, mais là, je vais le faire. On va faire un concerto, on va faire un chemin avec cette séquenza. Parce que ça, le saxophone, ça joue toujours mezzo forte, ça vibre partout. Ça, c'est, mais là, jouer comme ça, on va faire un concerto. Vous allez voir, ça va être, bon, évidemment, j'en demandais pas tant. Valider la séquenza pour au bois, au saxophone soprano et obtenir un concerto dans la foulée avec un chemin qui allait devenir récit, chemin 7, oui, je pouvais pas en espérer autant.
Thank you. Boulez, on voit assez bien, parce qu'il avait une image publique, donc on peut percevoir la personnalité, parfois en se trompant, justement, vous le disiez, il n'était pas forcément si sévère que ça, c'était quelqu'un aussi de bienveillant avec la jeunesse, et on voit aussi la précision de l'homme, même lorsqu'on l'interviewe, l'intelligence, la culture. Berriot est plus secret, quel genre de personnage était-il? Est-ce que, je sais que j'avais rencontré Katia et Marielle Labec qui avaient joué le concerto pour deux pianos, qui disaient que c'était quelqu'un de gourmand, qui adorait cuisiner.
Pour la petite anecdote, après avoir joué la sequenza à Bologne, donc après le concert, on va dîner avec Umberto Eco et Eduardo Sanguinetti, d'ailleurs, dans la foulée. Et là, on ne parle que de recettes de cuisine. C'était vraiment le sujet principal. Mais ce qui était vraiment intéressant, quand même, moi, ce que j'ai appris avec Berriot, c'est le rapport avec la voix. Évidemment, on enfonce une porte ouverte quand on dit ça. Le rapport à l'improvisation aussi. Ce qui était pour moi mes meilleurs moments sur scène, je n'ai pas remarqué pour lui d'empathie particulière pour ces concerts-là. En revanche, des concerts qui se passaient dans les pires conditions, avec une grève de la compagnie aérienne, pas de général, une arrivée sur scène en catastrophe sans passer par l'hôtel, où on est un petit peu sur le qui-vive et en défi permanent, là, il était toujours extrêmement content. Parce qu'on avait défendu sa peau. C'était l'aspect existentiel de la performance qui le captivait absolument.
À ces moments où vous êtes à la fois soliste avec l'ensemble intercontemporain, vous avez des compagnons de route qui sont des contemporains avec lesquels vous avez fait le conservatoire, vous avez joué des pièces de Betsy Jolas. Quels sont les compositeurs qui, à cette époque, semblaient véritablement s'intéresser au saxophone, à ce qu'ils pouvaient faire, à ce Betsy Jolas, je crois, aime cet instrument. Vers quel compositeur vous allez avoir envie d'aller, de solliciter? Quels étaient vraiment ceux qui s'intéressaient aux possibilités de cet instrument?
Pour moi, le travail se présentait devant moi comme en deux directions. Tout d'abord, quels étaient les compositeurs qui s'intéressaient au saxophone? C'est vrai que j'ai très vite rencontré Betsy Jolas. Elle aimait beaucoup l'instrument. Elle avait écrit à cette époque-là déjà Point d'or. Elle m'a aussi assez vite fait confiance, parce que ça, je pense que c'est une chose dont on ne parle pas suffisamment, la notion de la confiance. Un musicien ne se développe pas sans confiance. Et tout musicien d'orchestre vous le dira, un chef qui ne fait pas confiance à ses musiciens n'en obtient rien. Et ça a été le cas avec Betsy Jolas, par exemple. L'autre direction, c'était Boulez, Berriot, Stockhausen, Ligeti, j'envisageais de rencontrer Ligeti et Dutilleux. Et, en fait, tous les compositeurs dont je connaissais la musique et qui avaient ou n'avaient pas écrit pour le saxophone, ou l'avaient utilisé dans l'orchestre mais pas en soliste. Pour moi, je voulais jouer, j'avais 20, 25 ans, je voulais jouer des grands compositeurs, des compositeurs reconnus qui représentaient une tendance, voire une école ou une esthétique particulière, forte, marquante, historique. Et ça ne fait que se renforcer avec le contact avec Boulez, c'est la dimension historique. Si on ne s'inscrit pas dans une histoire, on n'existe pas. Enfin, et le fait de tenir compte d'une tradition, ça ne suffit pas. Il faut se projeter dans une histoire. Et pour moi, donc, ça passait par une reconnaissance de mon instrument et de moi-même, par des clés de voûte du XXe siècle.
avec la musique de Betsy Jolas que nous quittons le saxophoniste Claude Delangle, que nous retrouverons demain. Gilles Blanchard a réalisé cette émission avec Tahar Bouklifa à la prise de son, Cédric Chatelus au mixage et Flora Sternadel à la préparation. Toutes les références sur le site de France Musique, l'émission Les Grands Entretiens que vous pouvez réécouter et podcaster.
À réécouter sur francemusique.fr.